Bon, alors attention, on est prêt. Moteur, ramène la 24 deuxième.
Ça s'appelle le miroir de l'âme.
Bon, alors j'ai changé le titre, hein, parce que le miroir de l'âme, c'était pas possible.
Oula.
Clap Cinéma, une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Oui, on a envie de voir, c'est sûr.
Bonjour, bonjour à tous. Une émission Clap Cinéma au Sémaphore, mais aussi à l'Imperator, ou Loge Eve Ruggieri. Bonjour Eve Ruggieri.
Bonjour.
Merci de nous consacrer du temps dans cet emploi du temps chargé, puisque
oui.
Vous êtes venue.
C'est la course contre la montre.
Puisque Carte Blanche, l'association Carte Blanche, a profité du Festival de la Biographie, où vous signez de très nombreux livres. Hein. Vous avez des
femmes. C'est vrai que ça a bien marché.
Au cas où je mourrais, donc déjà le titre vous montre bien un petit peu votre état d'esprit. Donc, mémoire. Et Carte Blanche, vous avez demandé, c'était l'occasion de présenter un film que vous montrez donc au cinéma Le Sémaphore. Ça doit être un choix difficile parce que... Mais vous avez choisi, je dirais, un film triste, mais avec la musique de Michel Legrand, que nous écouterons tout à l'heure. Pourquoi ce film ?
Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un réalisateur magnifique que
Joseph Losey, oui.
Voilà, que j'aime passionnément, dont je crois avoir vu tous les films. Ensuite parce que c'est une très très belle distribution avec Julie Christie qui est formidable, mm-hmm. dans le rôle principal. Et enfin parce qu'il y a la musique de Michel Legrand et que c'est une très caractéristique chez Michel, c'est-à-dire qu'il a ses propres compositions. Il aime beaucoup prendre dans l'esprit d'eux. Et là, ça pourrait être de Vivaldi ou de Handel.
Ouais.
Et c'est exactement, il nous raconte le film, qui est l'histoire de ce petit garçon, qui est d'un milieu très modeste, qui est invité par un de ses camarades d'école dans un château magnifique. Donc il arrive, il est un peu intimidé et il tombe sous le charme de la jeune fille de la maison et il va accepter d'être le messager, c'est-à-dire le porteur des petits billets que s'envoie cette jeune fille et le métayer, on pourrait dire, de la propriété.
Donc c'est un film romantique.
C'est très romantique, c'est pas triste, c'est plus dramatique parce que la fin est dramatique, mais c'est un peu comme Downton Abbey, ouais. C'est-à-dire ce sont ces Anglais, même si le réalisateur est né aux Indes orientales, il est typiquement anglais, et en général, les films anglais, il y a des distributions jusqu'au dernier petit rôle
qui sont regardés tous les
choisis
détails.
Et puis les meilleurs comédiens du monde.
Ouais.
Et donc il y a tout ça, c'est de très très grande qualité. La photo est admirable. Et puis c'est cette campagne anglaise qui est magnifique.
Eh bien, nous nous retrouverons au Sémaphore et dans l'émission donc Clap Cinéma où nous parlons régulièrement de cinéma. Et là, nos auditeurs ont donc l'occasion d'écouter votre voix bien reconnaissable.
Oui.
Et j'ai noté dans votre livre hein, qui est très dense. J'avoue que l'ayant eu tardivement, je l'ai parcouru, mais j'ai pas eu le temps de voir tous les détails. 59 chapitres.
Oui.
Et j'ai fait une liste, si vous me permettez de la lire, en me disant, mais si on faisait un index, il y a la musique, bien sûr, en premier, les compositeurs, les hommes politiques, les chanteurs, les chanteuses, les opéras, les villes et les pays. Vous êtes une grande voyageuse.
Oui.
On mettrait le Maroc en premier, d'après ce que j'ai compris.
Oui, j'ai une passion pour ce pays.
Oui. Les festivals, les amis. En fait, toutes les personnes que je viens de citer sont des amis. Maintenant, certains sont disparus. La littérature, qui est tout de même très, très présente. L'art, il y a une petite pique contre l'art contemporain que j'ai beaucoup apprécié à la fin. Des anecdotes, parce que c'est vrai qu'on rit aussi beaucoup dans votre livre. Bien sûr, la radio, la télévision. Et puis, au début, elle est très présente. Après, moins, votre vie privée, votre famille. Ce sont des mémoires, mais des mémoires d'une femme de télévision, d'une femme
de radio.
De radio.
Oui.
Donc, vous mettez à la fin, peut-être qu'un jour, je vous raconterai.
Parce qu'au cas où je mourrais, ils n'ont pas pu mettre le point d'interrogation qui est très important, qui est normalement devrait être sur la couverture du livre. Et j'ai découvert à cette occasion qu'on ne met pas de ponctuation sur la couverture d'un livre.
Voilà, parce que vous me l'avez appris aussi.
Voilà.
Et alors, je parlais de cette voix, et vous dites à la page 66, « Aujourd'hui encore, je m'interroge toujours sur l'impact d'une voix. » La mienne, qui n'ayant ni aigu ni grave, et moins encore de puissance, m'identifie plus sûrement que mon passeport.
Oui, c'est vrai, parce que les années passant, on ne me reconnaît pas forcément dans la rue, mais si j'ai le malheur
de parler,
je ne sais pas où dire mon petit chien, ça qui vient là tout de suite, immédiatement, les têtes se retournent et quelqu'un me dit toujours « Vous n'êtes pas Frédéric ?»
Si, si, c'est moi.
Et c'est cette voix qui n'existe pas, puisque je vous parle, là, c'est vraiment un maximum. Dès que je commence à pousser la voix, je commence à tousser, je n'ai pas de voix du tout.
Ouais. Et on s'en est pas aperçu dans votre carrière. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est un petit peu le... On ne va pas reprendre tous les détails, mais ce hasard de ce concours pour entrer à la télévision les années 20... à 20 ans, dans les années 60, vous pensiez que... Non, vous ne pensiez pas, vous le dites d'ailleurs, avoir une telle carrière, c'est les hasards de la vie.
Non, pas du tout. Oui, parce que... en fait, non, c'était plus... C'est pas vraiment le hasard, parce qu'un beau jour, j'ai regardé ma main, j'aurais dû être pianiste, normalement, concertiste. J'avais fait des études pour cela. Et un jour, j'ai regardé ma main, j'ai travaillé un concerto de Rachmaninov, et c'était pour moi terrible. J'ai une main très étroite, et j'arrive pas à attraper. J'attrape l'octave sur le rebord, vraiment, des touches, et je me suis dit, je ne pourrais jamais faire la carrière dont je rêve, c'est-à-dire le grand piano, presque orchestre à lui tout seul, de toute la littérature russe, par exemple. Et je me suis dit, Mozart c'est sublime, Chopin c'est très bien, mais je voulais un piano qui soit vraiment un piano orchestre.
Ouais.
Et j'ai dit, bon ben j'arrête. J'avais commencé le piano à 5 ans, au fur et à mesure des années, je le travaillais de plus en plus, les concours, tout ça. Et je me suis dit, si c'est pour être professeur de piano, c'est un métier magnifique. Mais je n'ai pas cette fibre-là, je suis trop impatiente dans la vie.
Oui, vous le dites souvent dans votre livre. Impatiente, rebelle.
Donc j'ai passé un concours qui m'avait été signalé par maman pour être réalisateur à la radio. Je me suis dit comme ça, où moi je croiserais des musiciens, puisqu'il y avait l'orchestre de la radio.
Sur la musique, elle est
à Paris.
Elle est toujours
voilà.
Et j'en profite parce que votre livre, bon, j'ai dit 59 chapitres, énormément de personnes, et les plus grands, hein, je ne sais pas le qui vous placeriez en premier, tellement ils sont nombreux. Mais j'ai été très, très marquée parce que vous êtes discrète, vous ne prenez pas, comment dire, position de façon violente. Mais j'ai remarqué, parce qu'on est tout de même dans un contexte compliqué, page 173, vous parliez de la Russie. Et vous disiez, question récurrente après toute invasion armée d'un pays, faut-il faire payer aux artistes les actes de celui qui en a donné l'ordre ? Et après, je livre à votre jugement la belle lettre de Tougan Sokiev, l'excellent chef d'orchestre du Bolchoï. Donc j'abrège un petit peu. Nous, musiciens, sommes là pour rappeler à travers la musique les horreurs de la guerre. Nous, musiciens, sommes les ambassadeurs de la paix. Donc vous avez vraiment...
Oui, c'est vraiment ça.
C'est vraiment ça. La musique contre la barbarie.
On a un exemple flagrant et magnifique qui est Daniel Barenboim.
Oui,
qui va avec son ami créer un orchestre composé de jeunes musiciens, moitié palestiniens, mais pas seulement marocains, algériens, etc. et juifs.
Oui.
Et ça marche formidablement bien.
Oui.
Ce qui les empêche pas de s'engueuler à la récré en disant « Oui, non, mais toi, vous êtes des barbares, mais je ris, etc. » Mais quand un moment, Barenboim décide de donner un concert en Palestine, les parents juifs, et je les comprends, ne donnent pas leur autorisation. Et donc, ce sont les Marocains, etc., et Palestiniens qui partent désespérés de laisser leurs amis. Et une fois arrivés, au moment de commencer la première répétition, qu'est-ce qu'ils voient ? Un bus encadré de camions armés pour les protéger. C'est les parents juifs qui, finalement, ont donné leur accord. Si ça, c'est pas un signe de paix magnifique.
Donc la musique contre la barbarie. Et dans cette vie très, très dense. Vous avez beaucoup voyagé, puis vous avez rencontré les plus grands. Je ne peux pas tous les citer. Il faut lire le livre. Hein. Qui peut se lire par petits chapitres? Vous mettez des en-têtes qui sont très belles, hein, des phrases
oui,
en général. Vous
les avez, des citations
qui les avez choisies. J'ai été frappée de, j'allais dire, le luxe. C'est-à-dire, vous rencontrez ces personnes dans des lieux magnifiques.
Oui,
vous faites tous ces concerts. Vous m'avez dit que ce soir, en rentrant à Paris, vous avez à nouveau un concert. Vous dites, j'ai fait pratiquement toutes les salles de concert du monde. Et comment on garde son, j'allais pas dire son intégrité, sa lucidité dans une telle vie, dans un tel monde?
Parce que c'est un métier difficile, la musique. C'est un métier magnifique, mais c'est difficile. Ça demande énormément de travail. N'importe quel autre métier, quand on prend sa retraite, on s'arrête. Il n'y a pas de retraite dans la musique. Il faut travailler l'instrument tous les jours et on continue jusqu'au moment où l'âge arrive et que les doigts sont...
Vous jouez, vous, encore du piano?
Oui, mais en me cachant, parce que c'est très loin de mes exigences du début. Oui,
mais vous écoutez la musique tous les jours. Ça m'avait énormément frappé il y a au moins une vingtaine d'années. Dans une interview à la radio, vous aviez dit, moi, quand j'écoute de la musique, je ne fais que ça. Je ne peux pas faire autre chose quand j'écoute de la musique.
Oui, et c'est pour ça qu'on me dit, qu'est-ce que vous écoutez en travaillant? Je dis, je ne travaille pas en écoutant de la musique. Parce que comme tous les musiciens, je fais des dictées musicales. Moi, j'entends les notes, comme si elles me parlaient. Et donc, je ne peux pas à la fois écrire et faire une dictée musicale dans ma tête.
Et quand vous êtes dans un concert, bon, vous avez présenté énormément d'émissions, je vais liser le livre. Ah, je dis ça à nos auditeurs, pour voir. Et puis, vous avez choisi comme musique la musique de Musique au cœur, qui est Chambre séparée.
Hymne Chambre séparée. Ce qui sous-entend, nous sommes dans des chambres séparées. Et j'avais choisi, interprété par Elisabeth Schwarzkopf. Et puis, un beau jour, j'ai fait la rencontre de Felicity Lott. Et je l'ai trouvée tellement musicienne.
Je suis pas chanteuse.
Et voilà. Et finalement, on a remplacé Elisabeth Schwarzkopf. C'était quand même assez provocant de notre part.
Oui, je crois qu'on va l'écouter dans la version Elisabeth Schwarzkopf.
Voilà. Et c'est Oeberger, qui est un compositeur de musique un peu dans le genre des valses, de Strauss, vous voyez, un petit peu dans ce sens, mais qui a écrit des opérettes. Et il a un sens du phrasé, de la mélodie qui est magnifique. Et ça faisait un très très joli générique.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous avons l'immense joie d'avoir Ève Ruggieri avec nous. J'avais noté aussi beaucoup de choses sur les villes, sur les artistes. Alors, lesquels vous citeriez ? Pavarotti ?
Oui, Pavarotti, j'ai travaillé 15 ans avec lui. Dans les découvertes que j'ai eu le bonheur de faire, Roberto Alagna certainement.
Nathalie Dessé,
Jesse Norman.
Enfin, il y a une liste.
Isaac Stern, magnifique.
Schwalbe, que je ne connaissais
oui,
pas.
Oui, ah,
c'est une très très belle anecdote, je ne sais pas.
Le violon, le premier violon de l'orchestre de Karajan, et donc qui est arrivé à la radio avec une boîte de violon usée, posée. Je me disais qui est ce vieux monsieur qui a l'air d'un clochard. Et quand il s'est présenté, il m'a dit voilà, je suis le violon solo de l'orchestre du maestro Karajan, la philharmonique de Berlin. Je me suis dit, j'ai devant moi l'idole de ma mère. Et je l'ai fait attendre 10 minutes dans le couloir, un quart d'heure même. Et ça a été le début d'une longue amitié. Et voilà.
C'est ce que j'aime beaucoup dans votre livre, qui est très dense, parce que là, on n'a pas le temps, mais on sent cette passion pour l'histoire. Là, vous, tous les lieux, vous nous faites visiter Versailles, vous nous faites visiter Prague, vous nous faites visiter Rome, vous nous faites visiter Naples.
Bien
vous
sûr.
Êtes toujours accompagné par les meilleurs guides. Je pense
oui.
à Naples avec Dominique Fernandez.
Oui, oui, oui. Donc, qui est un ami, qui est toujours un ami, mais qui est retiré dans ses montagnes. Et, et là, c'est beaucoup moins.
Qu'est-ce que vous vous dites là maintenant j'ai la chance d'avoir rencontré tout ce
Alors
monde.
Ça, j'y
magique.
Pense jamais. J'y pense... Jamais, parce que je suis tout le temps en quête de nouveaux artistes. Et là, j'ai découvert un jeune violoncelliste anglais qui s'appelle Willard, c'est son prénom, et qui est exceptionnel. Il a 19 ans, 20 ans maintenant. Et c'est sûr que ça va devenir un des grands concertistes.
Donc vous n'arrêtez
Donc,
jamais.
Je ne pense pas à ce qui est passé, mais à ce qui va peut-être arriver.
Et puis j'ai lu aussi que vous n'aviez gardé aucun enregistrement. Mais si vous, personnellement,
non.
vous ne les gardez pas, je pense qu'à la radio, à la télévision.
Alors, à la télévision, l'INA a tous les musiques au cœur qu'on peut consulter en allant sur INA, sur l'INA. Sur France Inter, il n'avait rien gardé des récits du matin. Et c'était une radio concurrente, qui avait Europe 1, pour ne pas les nommer, qui avait tout enregistré, qui m'ont dit si vous. Et en fait, j'avais des choses dans ma tête.
Alors, je voudrais passer à un autre sujet, parce que vous me disiez oh, vous n'allez pas trop au cinéma, vous n'avez pas le temps. Mais il y a une page que j'ai relevée, page 55, je voudrais qu'on parle des femmes. Et dans une seule page. Vous parlez de 4 actrices que je trouve remarquables. Geneviève Page, je la revois. Delphine Seyrig, Charme et sensualité, la voix, hein, dont vous parliez tout à l'heure.
Et le phrasé.
Emmanuelle Riva, votre idole. Et Macha Merrill, qui va venir dans Carte Blanche dans quelques temps.
Et qui est brillante, intelligente, drôle, qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'aime beaucoup, c'est ma voisine en Gascogne.
C'est vrai, c'est aussi un lieu très, très important. Et je voudrais justement qu'on conclue sur... vous avez été une pionnière, hein, une femme parmi plein d'hommes. J'ai relevé la phrase... Moi, je suis de cette génération aussi, les trois pierres, Pierre Desgros, Pierre Lazareff. Vous dites le machisme des trois pierres.
Oui.
Comment une femme, aujourd'hui, est-ce que ça a fait des progrès, disons ? Est-ce qu'il y a d'autres femmes ?
Ah, je crois vraiment.
Oui.
Je crois que les mouvements féministes, pas les extrémistes qui me paraissent être vraiment à côté de la plaque parce qu'elles font plus de mal que de bien, mais je pense qu'elles sont indispensables à l'évolution de la société. Et quand je vois qu'on n'est toujours pas arrivé à l'égalité des salaires à poste égal, je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, moi, si quelqu'un me siffle dans la rue, je ne vais pas lui sauter dessus pour lui casser la figure. Ça me fait plutôt plaisir, vu
oui,
mon
c'est,
âge.
Tout est une question de notion, mais vous êtes tellement élégante.
C'est une question de raison. Voilà, être raisonnable, ça permet d'avancer plus que d'être tout le temps dans la provocation. Ça fait... les gens n'adhèrent pas à ça.
Et ce que je retiens de votre livre, justement, c'est sous... beaucoup d'anecdotes, un ton très fluide, très dense. Moi,
j'ai une conteuse.
Oui, il y a des chapitres que j'ai dû reprendre tellement il y a de détails. Je pense au château, à votre château, votre cher château du marquis de Montespan. Il faut goûter votre livre. Il faut pas.
J'aime les mots, donc ça m'amène à parfois faire des phrases un peu longues.
Un peu des digressions. Voilà. Moi, j'aime beaucoup
énormément
aussi. Mais c'est bien parce que je trouve que justement on s'en va. Et puis vous avez une très belle écriture. Merci beaucoup de m'avoir consacré du temps.
Merci.
On termine cette émission avec Michel Legrand, Le Messager.
Le Messager.
Merci à vous.
Merci à vous.
Thank you.